Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien, avec Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste pour Média Ténois. Bienvenue à Territoire d'info, votre bulletin de nouvelles francophones pour savoir ce qui se passe au territoire du Nord-Ouest et un peu partout dans le Grand Nord canadien. En cette semaine d'élection, voici ce qui a retenu notre attention. Le libéral Michael McLeod est réélu pour un troisième mandat au gouvernement fédéral. Ma collègue Marie Soleil des Hôtels s'est entretenue avec lui. Le candidat du NPD, Kelvin Cochilia, a réussi un tour de force en arrivant second à seulement 829 votes de son adversaire. Au lendemain des élections, j'ai discuté avec lui de l'avenir de son engagement politique. L'ambiance était à plat au territoire du Nord-Ouest le soir des élections, tout comme au Nunavut. Il fallait être au Yukon pour vivre une soirée électorale en bonne et due forme. On vous présente les témoignages de nos collaborateurs qui étaient déployés dans les trois capitales des territoires canadiens. Les électeurs du Nunavut éliront le 25 octobre leur prochain gouvernement. La campagne électorale débutait le 20 septembre et oui, le jour des élections fédérales. J'en ai discuté avec notre collaboratrice d'ici Grand Nord, à Iqaluit, Mathis Harvey. Et finalement, mon collègue Thomas Chabot s'est entretenu avec les dramaturges Amber O'Reilly et Xavier Laure Giroux, deux anciens résidents des territoires du Nord-Ouest qui viennent d'être récompensés par la Fondation pour l'avancement du théâtre francophone au Canada. Le libéral Michael McLeod a réussi à se faire réélire lundi soir lors du scrutin fédéral. Celui qui représente les territoires du Nord-Ouest depuis 2015 siégera à la Chambre des communes du Canada pour un troisième mandat. Ça a été une victoire beaucoup plus serrée que les précédentes. Marie-Soleil Deshôtels était sur place à l'hôtel Stanton pour accueillir les propos du vainqueur. Bonjour Marie-Soleil.
Bonjour.
Et Marie-Soleil, les résultats se sont quand même bien fait attendre du côté des territoires du Nord-Ouest. Comment s'est déroulée cette soirée électorale?
Écoutez, l'équipe de Michael McLeod nous avait donné rendez-vous vers 8h30 à l'hôtel. Il y avait plus de membres des médias que personnes de l'équipe de la campagne. Ils étaient environ 6, alors qu'on était une dizaine de personnes pour les médias. Ça a été une soirée pas du tout festive. Tout le monde était arrivé sur ses écrans ou sur son téléphone à essayer de regarder les résultats, voir qu'est-ce qui se passe, etc., que ce soit à la grandeur du Canada ou encore juste au territoire du Nord-Ouest. C'est seulement vers minuit et quart que Michael McLeod a pris le micro pour proclamer sa victoire. Il avait environ 700 voix de plus que Kelvin Cochilia du Nouveau Parti démocratique à ce moment-là. Après le dépouillement total des voix, là, on sait qu'il a récolté finalement 829 voix de plus. Donc, ça a été plus serré que les élections précédentes, alors qu'il avait autour de 3400 bulletins de plus en 2015. Puis en 2019, il avait 2300 bulletins de plus que là, son plus proche rival.
Donc, on vous a bien tenu en haleine. Ça a été une grosse soirée pour les journalistes autant que pour l'équipe de Michael McLeod. Et quelles ont été les déclarations du vainqueur?
Écoutez, lui, il a dit que ça avait été quand même une longue journée, mais une nuit excitante, que c'était une course serrée, qu'il était quand même content du résultat, même s'il aurait aimé avoir plus de votes en sa faveur. Il disait que, bon, si on gagne avec une grosse avance, c'est bien. Puis que c'était avec un petit nombre, mais que ça demeurait bien. Mais tu sais, que c'était un gain qui sonnait plus modeste. Il a aussi dit que cette élection avait été très différente et très difficile à cause de la pandémie, qu'il n'y avait rien pour remplacer les rencontres en personne, cogner à la porte des gens, leur parler, etc. Il a dû annuler des visites dans des collectivités à cause de l'éclosion au territoire du Nord-Ouest. Puis c'est quelque chose qu'il a trouvé très dommage.
Et la question que plusieurs personnes se posent, est-ce que M. McLeod brigue un poste de ministre cette fois-ci?
Écoutez, en 2019, il s'était dit déçu de ne pas avoir été choisi comme ministre. Quand on lui a posé la question, lundi soir, il nous a répondu qu'il était prêt à l'être, qu'il espérait toujours être nommé ministre, mais que ce n'est pas la fin du monde s'il ne l'est pas, que ce n'est pas la raison principale de son engagement. Il disait être dans la course d'abord pour être un membre du Parlement et que de ne pas avoir de portefeuille ministériel, advenant que ce soit le cas, ça lui permettrait de continuer à se concentrer entièrement sur les territoires du Nord-Ouest.
Parfait. Bien, Marie-Soleil Desautels, merci beaucoup.
Merci.
Dans le but de freiner l'éclosion de COVID-19 qui a jusqu'à maintenant touché plus de 700 personnes au territoire du Nord-Ouest, la santé publique a annoncé l'ajout de restrictions supplémentaires qui seront imposées aux résidents de Yellowknife, Dillon, Detta, Bechokon et Wati. Le tout doit entrer en vigueur ce vendredi 25 septembre à 23h59. À Yellowknife, les rassemblements seront limités à 25 personnes. Une limite de 10 personnes est désormais à respecter pour les lieux intérieurs, à l'exception des entreprises et installations essentielles. Ces entreprises doivent cependant fonctionner avec un nombre minimal d'employés. Les exceptions précédemment délivrées par la santé publique ne sont plus valides. Seules les situations exceptionnelles pourraient être exemptées si elles permettent de limiter la propagation du virus. Le télétravail est toujours fortement recommandé. Les écoles, les collèges et les écoles de métiers demeurent fermées jusqu'à nouvel ordre. Les garderies et services de garde ayant déjà reçu une exemption de la santé publique pourront demeurer ouverts. Ces restrictions supplémentaires seront en vigueur jusqu'au 4 octobre à Yellowknife, à Detta et à Dillon, jusqu'au 7 octobre à Bechokon et jusqu'au 9 octobre à Wati. Le NPD a fait des progrès considérables au territoire du Nord-Ouest depuis les élections de 2019. Le candidat de Bechokon, Kelvin Cochilia, est arrivé en seconde place, devançant ainsi les conservateurs, pour se positionner à seulement 829 votes du libéral Michael McLeod. Le jeune politicien en est à sa seconde élection en moins de 3 mois, lui qui briguait un siège en juillet dernier à l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest pour représenter la circonscription de Manfui. Au lendemain des élections, comment envisage-t-il la suite de son engagement politique? J'ai pu en discuter avec lui cette semaine en abordant tout d'abord les résultats de ces élections.
I'm kind of happy with my placement in this election, knowing that I'm a new up-and-comer in politics. It shows that the Northwest Territories is ready for change. It's just that the change is not... It's not now.
Le candidat qui se dit très optimiste quant aux résultats des prochaines élections pour le NPD, à ses yeux, les résultats de ces dernières élections démontrent que les résidents sont prêts pour du changement. En témoignent les résultats très serrés entre lui et le vainqueur des élections, Michael McLeod.
So I feel very optimistic for the future, for the next election.
Et comment s'est déroulée cette dernière campagne électorale, étant donné les restrictions imposées par la pandémie?
It put a lot of hope in traveling. Mm-hmm. We definitely wanted to visit Hay River, Fort Smith, Fort Simpson.
Malheureusement, l'éclosion en cours au territoire du Nord-Ouest a beaucoup restreint nos déplacements, indique que M. Cochilia. C'est une question de sécurité pour les résidents et pour son équipe. On voulait visiter Hay River, Fort Smith, Fort Simpson et même prendre l'avion vers les collectivités du nord du territoire pour rencontrer les résidents en personne, indique-t-il, ce qui n'a pas été possible. Il dit tout de même avoir gagné du terrain en s'engageant avec les organismes à but non lucratif et les dirigeants autochtones.
It was the fact that I wasn't able to reach people up north hurt me last night.
Ce qui nous a affectés au jour des élections, dit M. Cochilla, c'est le fait que je n'ai pas pu rencontrer les électeurs en personne. Le candidat néo-démocrate reconnaît tout de même les mérites de son adversaire libéral, Michael McLeod.
So I'd just like to congratulate him on his success. In, I think he does have community support, as the polls will give us an indication. So I think he's more liked as a candidate, but not for the party.
Kelvin Cochilia tient à féliciter son adversaire, Michael McLeod, qui visiblement a eu l'appui des collectivités. À ses yeux, les électeurs ont voté davantage pour le candidat, Michael McLeod, que pour le parti politique qu'il représente. Et après s'être présenté comme candidat d'abord au palier territorial et ensuite à ses élections fédérales, quelle sera la suite de son engagement politique?
So at this moment, I will go back to work.
Le candidat compte pour l'instant retourner à ses tâches financières au gouvernement des territoires du Nord-Ouest et poursuivre ses études à l'Université Athabasca dans le but de développer ses compétences afin de pouvoir poursuivre son engagement auprès des collectivités.
I think I'll definitely try again when there's another opportunity and when it the time is perfect for myself and for my family.
Il dit vouloir saisir les prochaines occasions qui se présenteront à lui. Quelles pourraient être ces prochaines occasions?
With the type of changes I would like to see in the north and
compte tenu des types de changements que j'aimerais voir dans le Nord et du type d'impact positif que j'aimerais avoir, indique M. Colchilia, des changements s'imposent au palier territorial et fédéral. En rencontrant les organismes et les dirigeants autochtones, j'ai constaté qu'ils recherchent l'engagement de leaders dévoués et passionnés qui veulent faire partie d'un mouvement. Je crois que c'est ce que j'ai été en mesure de démontrer et je crois que j'ai su bâtir d'importantes relations. Mais plus précisément, dans quelle lutte souhaite-t-il s'engager?
Gain more post-secondary skills through Athabasca University, I'll definitely be a better asset when it comes to planning and budgeting.
En acquérant davantage de compétences dans le cadre de mes études, je deviendrai un meilleur atout en matière de planification et de budgétisation, indique M. Colchilia. C'est l'une de mes forces. Il est primordial de savoir où l'argent doit être dépensé, quels programmes sont les plus efficaces. Bref, de savoir précisément ce que nous sommes en mesure de faire avec les types de fonds qui sont disponibles.
I guess just because I do have a strong financial background, I'll be able to help any type of NGOs.
Il ajoute avoir une solide expérience en finance et indique qu'il sera en mesure d'aider tout type d'organisme en ce sens. Je serai également en mesure de m'inscrire en porte-parole, souligne Calvin Colchilia. Les organismes ont besoin d'une personne capable de bien communiquer et de créer des relations avec les gens. Je crois qu'il s'agit également d'une force chez moi. Calvin Colchilia n'exclut pas non plus de se présenter à de prochaines élections.
I think we're both very proud of the amount of trust people had in me as potentially being the next member of parliament.
En regardant les résultats avec ma femme, nous étions très fiers de la confiance que les électeurs m'ont accordée en tant que potentiel futur membre du Parlement canadien. Pour les prochaines élections, indique-t-il, le temps jouera certainement à mon avantage.
And I feel that, time will be my friend.
Perfect.
In the next one.
La soirée électorale des territoires du Nord-Ouest aura pris cette année les allures d'un lundi soir somme toute banal. Alors que la capitale, comme d'autres régions du territoire, fait présentement face à une importante éclosion de COVID-19. À l'annonce d'une probable victoire des libéraux par CBC North, une vingtaine de clients étaient attablés au bar Le Monkey Tree à Yellowknife. Maxence Jaillet, directeur général de Média Ténois, était sur place.
Bon, il y a une vingtaine de personnes à peu près ici dans le bar. Vous avez annoncé un gouvernement libéral en prédiction. Aucune réaction ici, en tout cas, avec les résultats qui sont affichés sur les grands écrans. Pas vraiment de personnes qui ont applaudi ou pas vraiment de personnes qui ont réagi. J'ai pas l'impression que les gens ici soient vraiment très intéressés à ce qui se passe au niveau des élections. Les gens mangent leur repas, prennent une bière, mais vraiment, c'est pas la course à l'élection qui fait frénésie, en tout cas ici.
La plupart des bars et restaurants de la capitale qui auraient été susceptibles de diffuser cette soirée électorale étaient fermés. À Hay River, aucun de ces établissements n'a ouvert ses portes. En raison des restrictions sanitaires qui limitent les rassemblements, la plupart des candidats des territoires du Nord-Ouest ont choisi de ne pas organiser d'événements électoraux, préférant se limiter à des groupes réduits. Seul Michael McLeod, candidat libéral, a mis des mesures en place afin d'accueillir une dizaine de journalistes qui étaient rassemblés dans le lobby de l'hôtel Stanton Suites pour attendre les réactions du vainqueur. La journaliste Marie-Soleil des Hôtels en faisait partie.
Il y avait plus de membres des médias que des personnes de l'équipe de la campagne. Ils étaient environ 6, alors qu'on était une dizaine de personnes pour les médias. Ça a été une soirée pas du tout festive. Tout le monde était arrivé sur ses écrans ou sur son téléphone à essayer de regarder les résultats, voir qu'est-ce qui se passe, etc., que ce soit à la grandeur du Canada ou encore juste au territoire du Nord-Ouest.
Les résidents d'Iqaluit au Nunavut ont vécu un lundi soir somme toute semblable. L'affluence des bars et restaurants, tout comme le faible taux de participation d'environ 34 % témoigne d'un faible intérêt des électeurs pour ces dernières élections fédérales. Selon un employé du bar Nunavut Brewing Company, aucun des clients présents n'a réclamé qu'on syntonise le téléviseur à la soirée électorale. Les clients n'auraient d'ailleurs pratiquement pas évoqué les élections ce soir-là. Les trois candidates du Nunavut ont tout de même été en mesure de rassembler leurs équipes pour suivre le dépouillement des votes en direct. La candidate du NPD, Laurie Idloot, a célébré sa victoire en compagnie d'une quinzaine de personnes rassemblées au centre alimentaire d'Iqaluit. Les règles sanitaires en place au territoire du Nord-Ouest ont considérablement restreint le déploiement des soirées électorales du 20 septembre. La situation était tout autre au Yukon alors que les candidats ont accueilli leurs équipes, leurs électeurs et les journalistes à des soirées électorales en bonne et due forme. Ma collègue Nelly Guidici s'est promenée tout au long de la soirée dans la capitale Whitehorse pour faire le tour des quartiers généraux des candidats. Elle est avec nous pour nous en parler. Bonjour Nelly.
Bonjour Thomas.
Nelly, à quoi a ressemblé votre couverture électorale? Qu'est-ce qu'on offrait comme événement du côté des principaux partis?
Alors, du côté des principaux partis, le Parti conservateur, le Parti libéral avaient des soirées électorales en centre-ville. Au Parti conservateur, j'ai pu m'y rendre aux alentours de 21h. Il y avait une quinzaine de personnes, pas vraiment d'ambiance, mais la candidate attendait les résultats plus officiels pour pouvoir faire ses déclarations devant le public. La candidate du Parti vert avait un comité réduit réuni dans une pizzeria de la ville. Elle était entourée d'une quinzaine de personnes qui sont ses proches et des bénévoles qui étaient présents lors de sa campagne. Le candidat indépendant, lui, a reçu les journalistes en tout début de soirée dans son quartier général de campagne. Il était vraiment entouré par une équipe très réduite de 5-6 personnes qui sont vraiment son équipe très très proche. Il a reçu aussi donc les médias, il m'a reçu en entrevue. Finalement, si je puis dire, c'est vraiment au quartier général du Parti libéral qui était en centre-ville de Whitehorse au musée McBride qu'il y avait le plus de personnes puisqu'une cinquantaine de personnes étaient réunies pour applaudir finalement l'arrivée du candidat élu, le Dr Brendan Hanley, qui s'est présenté au musée aux alentours de 22h15.
Bref, vous avez eu droit à une vraie soirée électorale au Yukon.
Oui, exactement. J'ai pu quand même me rendre dans plusieurs endroits. Il faut savoir que les médias ont été reçus dans tous les quartiers généraux. Je n'ai pas pu me rendre au quartier général du nouveau Parti démocratique, mais tous les candidats étaient ouverts à répondre aux questions des médias anglophones et francophones présents lors de ces soirées. Et au QG, au quartier général du Parti libéral, les gens ont continué d'affluer. Donc, en début de soirée, il y avait à peu près une trentaine de personnes jusqu'à une cinquantaine de personnes au moment que tout le monde attendait, visiblement, l'arrivée du candidat gagnant. La candidate du Parti vert m'a indiqué en entrevue que cette année, la campagne électorale était relativement courte comparée à la campagne électorale d'il y a 2 ans, en 2019, et cette période raccourcie ne lui a pas permis finalement de rendre visite à toutes les communautés du territoire du Yukon. Et puis elle m'a indiqué aussi que la situation au niveau national, elle semblait être la même qu'avant le déclenchement des élections, et elle espère quand même que le Parti libéral va collaborer davantage avec les autres partis.
D'accord, donc c'était pas on entendait la même chose par exemple du candidat Kevin Colchilla du NPD au territoire du Nord-Ouest qui n'a pas pu faire toutes les visites qu'il souhaitait. Par contre, la raison évoquée, c'est les restrictions là des règles sanitaires. La candidate des Verts au Yukon a le même discours, par contre, c'était faute de temps. Donc, voilà.
Exactement. Le temps était vraiment trop restreint pour rendre visite à toutes les communautés du territoire, sachant que, par exemple, la communauté de Holcourt n'est accessible que par avion et que pour les autres communautés rurales, il faut plusieurs heures de route pour s'y rendre. Donc, elle a vraiment pointé du doigt le manque de temps et cette période vraiment trop réduite ne lui a pas permis de parler à toutes les personnes à qui elle aurait souhaité parler dans le cadre de cette campagne électorale.
Nelly Guidici, merci beaucoup. On vous souhaite du repos. On s'imagine que c'était une grosse soirée.
Oui, merci Thomas.
Les élections du 20 septembre marquaient la fin de cette campagne électorale fédérale, mais pour le Nunavut, c'était également le tout début d'une nouvelle campagne électorale, cette fois-ci au palier territorial. Les Nunavois seront appelés aux urnes le 25 octobre pour élire leur nouveau gouvernement. J'en ai discuté le soir des élections avec Mathis Harvey, qui est journaliste pour Ici Grand Nord, à Iqaluit. La journée d'aujourd'hui marquait évidemment celle des élections fédérales, mais c'est aussi le début d'une nouvelle campagne électorale, celle du Nunavut.
Oui.
On a choisi le 20 septembre.
Oui, ils ont choisi leur journée. Les Nunavumut ont à peine eu le temps de reprendre leur souffle aujourd'hui qu'une nouvelle campagne électorale débutait. Le même jour. Donc, les résidents ici vont devoir se rendre aux urnes le 25 octobre donc pour élire les députés qui vont les représenter dans chacune des 22 circonscriptions du territoire. Sur les 22 députés, 5 ont annoncé publiquement qu'ils ne prévoyaient pas de briguer un nouveau mandat. C'est le cas, évidemment, de la candidate libérale, donc Pat Agnakak, qui était députée territoriale ici et qui s'est lancée dans la course électorale fédérale. Mais aussi notamment de l'ancien président de l'Assemblée législative du Nunavut, qui était aussi député, Paul Kwasa, qui était, on se rappelle, le quatrième premier ministre du Nunavut entre 2017 et 2018. Puis il a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière politique. Donc, on le reverra pas sur la scène territoriale. Puis on sans doute plusieurs enjeux dont on a parlé pendant les élections fédérales, vont refaire surface forcément pendant cette campagne, notamment la question du manque de ressources en santé mentale dans les communautés à l'extérieur de la capitale, mais bon, aussi la question du logement, puis celle des services aux aînés aussi.
Eh bien, on va suivre ça à partir des territoires du Nord-Ouest. On vous souhaite une excellente seconde campagne. Mathis Harvey, journaliste pour Ici Grand Nord au Nunavut, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Merci. À bientôt.
Les résidents de Yellowknife seront appelés de nouveau à voter en novembre, cette fois-ci dans le but de se prononcer pour ou contre l'emprunt au gouvernement fédéral d'une partie du coût associé à la construction du futur centre aquatique de la municipalité. Et pour une toute première fois, les bulletins de vote seront probablement fournis par la poste. Le conseil municipal de Yellowknife pourrait adopter lundi prochain, 27 septembre, des modifications au règlement sur les élections municipales afin d'y inclure ce nouveau mode de scrutin. Une mesure proposée par l'administration dans le but d'adapter l'exercice démocratique aux enjeux de la pandémie, comme l'explique l'administratrice principale Sheila Bassi-Kellett.
And so planning the mechanics of a referendum during a pandemic and in the context of a fourth wave, an ongoing reality that we're facing, we are really being pushed to consider the safest, most effective, and of course, within the legal parameters, we need to find the best options for voting for our residents come November.
Face à cette quatrième vague d'infection, explique Mme Bassi-Kellett, l'administration souhaite mettre en place un référendum sécuritaire conforme aux directives de la santé publique, mais également conforme à la loi sur les élections municipales. Ce nouveau mode de scrutin sera également en vigueur dans le cadre des prochaines élections municipales. Selon cette nouvelle méthode, les bulletins de vote seront envoyés par la poste aux résidents. Ces bulletins de vote pourront ensuite être soit retournés par la poste ou déposés en personne à la mairie de Yellowknife. Cette méthode inclura également le recours à une tabulatrice de vote pour un dépouillement automatique, un système qui a connu des failles dans certaines circonscriptions canadiennes, comme l'a souligné un conseiller municipal. Comme l'a expliqué la greffière Debbie Gilbert, le processus ne sera pas entièrement automatisé, sachant que les résidents inscriront eux-mêmes leur choix sur le bulletin de vote. Ce bulletin sera ensuite confié à un membre du personnel électoral qui l'insérera dans la tabulatrice. Bref, plusieurs mesures seront mises en place afin de s'assurer de la précision des résultats. Le mode de scrutin par vote électronique a été écarté de ce prochain référendum à Yellowknife puisqu'il ne répond pas aux exigences de la loi sur les élections municipales. Selon les estimations, la construction du futur centre aquatique de Yellowknife devrait coûter entre 52,4 et 63,7 millions de dollars. Si les résidents se prononcent en faveur d'un emprunt au gouvernement fédéral, le nouveau centre pourrait ouvrir ses portes à l'hiver 2023. Le 14 septembre dernier se tenait la cérémonie de remise des prix d'excellence de la Fondation pour l'avancement du théâtre francophone au Canada. On en parle à Territoire d'Info aujourd'hui parce que parmi les lauréats se trouvent deux anciens résidents des territoires du Nord-Ouest, Amber O'Reilly et Xavier-Laure Giroux. Thomas Chabot s'est entretenu avec eux un peu plus tôt cette semaine et est avec nous pour nous en parler. Bonjour Thomas.
Bonjour Thomas.
Donc d'abord, avant de parler des lauréats, expliquez-nous un peu qu'est-ce que la Fondation pour l'avancement du théâtre francophone?
Bien, la Fondation pour l'avancement du théâtre francophone, de son long nom, a pour objectif de soutenir des projets de création par des artistes professionnels émergents de partout au Canada, d'un océan à l'autre. Depuis son installation en 1999, il y a 22 ans, la Fondation, mise sur pied par l'Association des théâtres francophones du Canada, a remis 664 000 $ à plus de 110 lauréats. Et cette année, en raison de la pandémie, la cérémonie a pris la forme d'un gala virtuel. Mm-hmm. Au total, lors du gala virtuel de cette année, ce sont 60 000 $ qui ont été remis aux 10 lauréats de cette année. Alors, pour les lauréats en tant que tels, 5 prix annuellement sont remis à l'échelle nationale, 2 prix sont remis pour la région de l'Acadie, 2 prix pour des artistes ontariens et 1 prix est décerné à un artiste de l'Ouest ou des territoires. Et parmi les récipiendaires des prix d'excellence cette année se trouvent deux anciens résidents des TNO, comme vous le disiez, Thomas. Amber O'Reilly remporte le prix Roland Mahé, qui est remis à un artiste de l'Ouest ou des territoires, comme je vous le disais, pour son œuvre Annie et Tom, du lundi au vendredi, son œuvre théâtrale. Une bourse de 5 000 $ aussi accompagne ce prix afin d'appuyer la production de la pièce qui sera présentée sur scène cet été à Winnipeg. Je vous propose d'écouter Amber O'Reilly au sujet du prix Roland Mahé et du processus de création de son œuvre.
Oui, donc Annie et Tom du lundi au vendredi, c'est la première pièce de théâtre intégrale que j'ai écrite. J'ai commencé l'écriture en 2018, alors un peu plus de 3 ans plus tard, je peux vous dire que ça a été toute une aventure comme projet. J'ai été vraiment appuyée par le théâtre Sartre-Molière de Winnipeg au début. Puis il y a aussi beaucoup de personnes au TNO qui m'ont fait des dons dans ma campagne de sociofinancement pour me rendre au premier atelier d'écriture pour commencer à écrire cette pièce-là. Alors je voulais prendre un moment pour remercier aussi la communauté franco-tennoise pour l'appui envers l'œuvre.
Alors on vient d'entendre Amber O'Reilly. Et pour sa pièce, il ne sera malheureusement pas possible de la voir sur scène au territoire du Nord-Ouest. Cependant, une production vidéo a été réalisée l'été passé et la première virtuelle est prévue pour le 27 octobre.
Parfait. Bien, félicitations à Amber O'Reilly. Quittons les plaines à présent pour se rendre en Acadie où Xavier-Laure Giroux a remporté le prix spécial Suzanne Cyr.
Et oui, direction Nouveau-Brunswick, Monsieur Laure Giroux a reçu ce prix pour son œuvre « L'acte d'apostasie », le prix nommé en l'honneur de la fondatrice de la consécration Notre-Dame de Sacré-Cœur. C'est le prix spécial Suzanne Cyr qui est accompagné d'une bourse de 5 000 $ permettant dans ce cas-ci à Xavier Laure Giroux d'effectuer un stage au théâtre L'Escaouette de Moncton. Alors L'Escaouette accueillera Xavier pour une exigence d'écriture en 2021-2022, donc plus tard cette année, la date n'est pas encore précise. Et suite à la mise en lecture de sa pièce au Festival à haute voix, c'est la décision qui a été prise par le théâtre. Ce n'est cependant pas une première rencontre entre l'artiste du Nouveau-Brunswick et ce théâtre emblématique de Moncton. L'artiste fréquente cette institution depuis ses 15 ans. Écoutons donc Xavier Laure Giroux sur cette nouvelle étape qui se présente à lui.
Ah, je me sens super bien. C'est une belle nouvelle que j'ai eue en revenant au Nouveau-Brunswick. Le prix spécial Suzanne Cyr me permet d'avoir une bourse pour retravailler le texte. Donc, je prévois faire un laboratoire avec ce qu'on appelle un laboratoire de création, là, avec des comédiens, puis des gens pour me conseiller pour vraiment essayer de rendre le texte, l'améliorer, le bonifier. Donc, pour éventuellement peut-être le produire puis le monter en spectacle. Donc, non, je me sens vraiment bien. Puis surtout que c'est un texte que j'ai écrit en grande partie à partir des territoires du Nord-Ouest, du temps que j'étais là. Donc, non, ça me fait vraiment chaud au cœur de recevoir ce prix-là.
On vient d'entendre Xavier-Laure Giroux, lauréat du prix Suzanne Cyr. D'ailleurs, Xavier, qui écrivait jusqu'à tout récemment là, dans le journal L'Aquilon, son roman La Dévoration, là, par bribes, disons-le, pendant à peu près un an.
Mais j'allais dire, tant qu'à parler de bribes, on peut mentionner Amber O'Reilly, qui, ses capsules Boussole Franche, passe chaque lundi à Latitude aussi.
Thomas Chabot, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.
Je vous en prie.
Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Territoire d'info fait relâche la semaine prochaine. On vous revient sans faute à partir du vendredi 8 octobre. Notez aussi que le 30 septembre prochain, c'est la Journée nationale de vérité et de réconciliation. Il y a notamment plusieurs employés du territoire qui auront droit à un congé férié. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'Initiative du journalisme local pour Média Ténois. Je souhaite une excellente fin de journée.
Territoire d'info. Une émission de l'Initiative du journalisme local financée par le Fonds canadien de la radio communautaire.